Ben.
À la une ce matin, c'est cette annonce du gouvernement qui fâche les pêcheurs hauturiers. L'ouverture prochaine de la plus grosse distillerie au Fénois à la Presqu'île. Et on parlera aussi des loteries de fêtes foraines. Une commission à l'Assemblée a validé l'extension de leurs heures d'ouverture. Journal de la rédaction présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Un an après l'annonce de l'UNOC de Nice, le Conseil des ministres doit acter ce matin la création de deux nouvelles aires marines protégées.
Oui, 500 000 km² donc au large des Marquises et des Australes qui vont s'ajouter aux 1 100 000 déjà interdits à la pêche palangrière. Dans cet espace, seule la pêche artisanale est autorisée. C'est l'annonce qui a été faite lors du festival Tainuiatea de ce week-end. Un effort de protection déjà prévu par le gouvernement. 500 000 km² qui seront donc actés ce lundi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Et certains ne sont pas du tout contents. Dès le mois de mars, les pêcheurs hauturiers avaient dénoncé cette surenchère de zones protégées et ils n'ont pas désarmé. Ce matin, ils doivent prendre la parole depuis le port de pêche. Difficulté à l'exportation, suspension depuis la fin du mois d'avril du label MSC. Baisse globale du chiffre d'affaires pour eux. Ces AMP vont leur rajouter des difficultés alors que le développement de la filière est au cœur des ambitions politiques. Moïte Ibroverson répond d'avance. Écoutez.
On a déjà, un bilan, mais on a une certitude, c'est que depuis l'instauration des aires marines protégées l'an dernier, on n'a pas eu de diminution des captures. Donc notre pêche n'a pas été impactée négativement par la mise en place de ces premières AMP. Aujourd'hui, il faut tenir compte de l'environnement mondial. Autour de nous, les choses bougent. Certains pays veulent s'engager dans l'exploitation des fonds sous-marins. D'autres ont réouvert, par exemple, si je prends les États-Unis, ont réouvert des zones de pêche dans ce qui était autrefois un sanctuaire, une AMP de classe 1 et 2. Donc les choses bougent autour de nous, on ne peut pas rester immobile.
Mais le président du pays, au micro d'Alexandra Perini, reconnaît que le chiffre d'affaires de ces professionnels est effectivement en baisse.
Ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est qu'on va travailler avec nos pêcheurs pour voir comment on peut les aider. Parce que si le volume de pêche ne diminue pas, c'est vrai qu'on observe des difficultés en termes de recettes. Et donc c'est là-dessus qu'il nous faut travailler ensemble.
Mais pour Moïte Ibroverson, ces difficultés, ce n'est pas la faute des AMP, mais bien de la hausse du prix des hydrocarbures ou encore des tarifs douaniers du président des États-Unis. Voilà ce qui a impacté notre capacité à l'export. En clair, le gouvernement veut bien discuter, mais ne reculera pas sur ces AMP. Ce sera au tour des pêcheurs hauturiers de se faire entendre. Ce matin, ils seront au port de pêche où une conférence de presse est organisée par l'Association des armateurs hauturiers et le syndicat des marins pêcheurs palangriers.
Le festival Tainuiatea a été aussi l'occasion d'interroger le président du pays sur le 1,5 milliard de francs du témoignage collectif.
Oui, il y a un an, la zone économique exclusive était donc passée d'air marine gérée à air marine protégée. Au niveau international, ça en jette. On parlait à l'époque de la plus grande AMP du monde, mais c'était aussi de manière pratique la possibilité, grâce à ce changement de classement, d'avoir des financements. Un collectif d'ONG internationales avait annoncé leur intention d'accompagner les projets du pays à hauteur d'1,5 milliard de francs d'ici 2027. Un collectif avec Pew Berter et Lee, la Bezos Earth Fund, la fondation Wise et Ocean 5 notamment.
Ces fonds sont effectivement bien débloqués. Ils sont fléchés sur plusieurs types d'actions. Il y a, par exemple, des actions qui visent à nous aider dans la mise en place des outils de monitoring. Comment est-ce qu'on contrôle? Comment est-ce qu'on agit? Il faut des moyens technologiques, il faut des moyens humains. Une autre partie est fléchée justement sur l'étude des modèles alternatifs économiques qui viennent compenser les restrictions qui sont associées aux AMP.
Et le président évoque aussi l'absence de clubs de plongée au Gambier à cause du manque d'équipement qui pourrait donc être financé par le témoignat collectif. Et il ne s'agit pas de virements donc reçus par le pays, mais de projets présentés et financés au fur et à mesure, a expliqué le président Broverson.
À 7h04 dans ce journal, on parle maintenant de ce projet. La plus grosse distillerie du Fénois a été construite à la Presqu'île.
Et ce nouveau site de production doit être opérationnel en octobre dans la zone industrielle de Faratea. Une troisième distillerie donc pour le groupe Brapac. Une distillerie 2.0 comme l'appelle Marotea Vitrac de la Brapac. Il était au micro de Lucie Sicarelli.
Ce sera la toute première distillerie de Polynésie construite sur un modèle industriel avec un point mort à environ 30 à 40 hectares de canne à sucre cultivée. Ça veut dire que le seuil de rentabilité, il sera à environ 30 hectares de canne à sucre pour la production et donc la commercialisation qui va suivre. Et c'est une distillerie équipée d'une colonne. Ce sera la toute première colonne designée spécifiquement pour le rhum pur jus de canne, avec une faible consommation d'énergie, avec une faible consommation d'eau. C'est vraiment une distillerie 2.0 qu'on est en train d'installer à la Presqu'île.
Le site pourra ainsi traiter jusqu'à 100 hectares de canne à sucre et 1 hectare, c'est un emploi direct, assure Marotea Vitrac. La distillerie va également participer au développement de la filière avec la production de nouvelles références de rhum. Cette distillerie sera donc la plus grosse du Fénois, mais veut aussi être vertueuse et innovante. Écoutez.
Un projet qui est parallèle à celui de cette distillerie, qui est le projet de la fabrication d'engrais à partir des coproduits de la distillerie. Parce qu'on a aussi imaginé dans le process complet le traitement de tous les déchets générés dans la zone de Faratea, y compris la future zone aquacole de Faratea qui est juste à côté, qui va être capable de traiter par compostage l'ensemble des déchets et des coproduits qui vont servir d'engrais. Et également, et ça c'est un scoop, on va répondre à l'appel à manifestation d'intérêt produit par la DIREN avant le 30 juin pour composter les plastiques d'origine végétale sur place.
Canne bio, retraitement des déchets en engrais, candidature à un projet de compostage de plastique biosourcé et c'est presque prêt. Le bâtiment est déjà sorti de terre, il attend maintenant sa conformité prévue pour le mois d'août avec une mise en service en octobre.
On parle politique maintenant avec une commission de l'Assemblée qui a validé samedi l'extension de l'ouverture des loteries de fêtes foraines.
C'est la commission de l'économie et des finances qui a adopté un projet de délibération étendant les dates d'ouverture de ces loteries. Le Tuorei de Otumauro a ouvert ses portes la semaine dernière mais un stand pourtant très populaire garde porte close, celui de la loterie Tamara. Interdiction d'ouvrir avant le 25 juin à cause d'une réglementation vieille de près de 30 ans. Le gouvernement avait déjà soumis à l'Assemblée un projet de modification de cette délibération de 1998, mais ça avait fait jaser à Taraoï. Certains représentants s'inquiétaient de cette multiplication des jeux d'argent en marge des fêtes, de possibles addictions, problèmes d'addiction et ses conséquences économiques sur certaines familles. Le projet de délibération représenté en commission samedi reprend les dates de dérogation originelles de début juin à la fin août et pendant les fêtes de Noël en fin d'année. Cette fois, unanimité en commission pour valider le texte qui doit encore être voté jeudi en séance plénière.
Vous écoutez le journal de Radio 1 et Thierry FM, il est 7h07 et la ressourcerie de Marina, Lucie, va fêter ses 2 ans toute cette semaine.
Et ça commence aujourd'hui, la ressourcerie qui est ouverte en 2024. Sur place, salariés et bénévoles collectent, valorisent et revendent des produits de seconde main. En 2025, plus de 25 tonnes d'objets avaient été collectées, plus de 14 tonnes ont été traitées et valorisées. Et sur ces 14 tonnes, près de 60% ont été réemployées. 2 ans donc que cet espace existe et l'association environnementale TIAI Fénois, créatrice de la ressourcerie, veut fêter ça. Ateliers, grandes ventes solidaires et visites guidées sont au programme, donc jusqu'à vendredi.
Et en bref, aussi dans l'actualité ce matin, 2 personnes décédées ce week-end.
Oui, on apprend sur TNTV et Polynésie la première qu'une femme d'une 60aine d'années est morte dans l'incendie de sa maison à Wapo, aux Marquises. Et puis un ressortissant allemand de 56 ans a été retrouvé mort dans son logement à Teahupo. Un décès qui date de plusieurs jours. Des enquêtes ont été ouvertes sur ces 2 affaires.
Et puis, figure de la musique traditionnelle polynésienne, le percussionniste et fabricant d'instruments Noël Mahuta est décédé.
Et tous l'appelaient Saté, c'était son surnom. Il était connu pour son engagement en faveur de la culture, son talent de musicien et sa générosité aussi. Ce père de famille était notamment directeur musical au sein de Tahiti Tiamai.
Et puis des nouvelles maintenant de Paris où la campagne pour la présidentielle commence.
Et Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise et candidat, tenait son premier meeting de campagne hier. Il a affirmé que la Nouvelle-Calédonie ira vers l'indépendance s'il est élu à l'Élysée. Il a aussi affirmé vouloir accompagner la Corse vers une autonomie étendue. Pas de mention de la Polynésie, mais il dit vouloir appliquer le principe, je cite, du respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations.
Du sport maintenant, Lucie, avec d'abord la 38e édition de la Taito ce week-end au parc Aurei Tinihau.
Une bataille acharnée dans les eaux de Pire, Arwe et Mahina, et c'est Brice Punua Tahitua, déjà vainqueur en 2023, qui l'emporte dans la catégorie Open Homme. Chez les femmes, c'est l'indétrônable Iloha Eshen qui gagne, c'est sa 5e victoire sur cette course.
Et puis du surf aussi, ça se passe en ce moment même au Salvador.
Kaolivast est toujours en course sur cette 5e étape du Tour d'élite WSL à Punta Roca. Le surfeur de Rao a éliminé le double champion du monde Felipe Toledo et retrouvera en 8e de finale Joao Chianca. Ça devrait être dans quelques heures. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 avec la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie et à toutes.